Alors, messieurs les commissaires, premier sujet ce matin, les missions de paix du Canada sous l'administration Trudeau.
Oui, on n'en parle pas beaucoup de ces aspects-là de la politique. Pourtant, elles ont beaucoup d'importance. Puis là, l'occasion d'en parler, c'est qu'il y a eu une conférence de l'ONU à Vancouver. Et cette conférence de l'ONU-là avait pour but, c'est une conférence annuelle qui se tient dans différents pays, juste pour faire le point sur les missions de paix. Dans le fond, on n'en sait presque rien. Mais ce qu'on sait, c'est que dans certains cas, quand il y a des conflits armés, tout d'un coup, on voit apparaître l'ONU, ici connue plus familièrement sous le terme des casques bleus. Pourquoi les casques bleus? Ben, ça remonte à l'origine. C'est assez glorieux, si tu veux, dans l'histoire du Canada. C'est Lester B. Pearson qui, au moment du conflit du canal de Suez, dans les années 50, en 57 plus précisément, a en quelque sorte inventé, étant donné que le Canada n'était pas une partie prenante de ce conflit-là, où il y avait la Russie, puis évidemment ça se passait en Égypte, puis il y avait la Russie qui s'opposait à la France, à l'Angleterre, donc il y avait un conflit potentiellement dangereux qui ne se trouvait pas de solution, et Lester B. Pearson, à ce moment-là, ministre des Affaires étrangères du Canada, avait proposé, et en quelque sorte mis sur pied avec le Canada, une force d'intervention qui s'appelait les casques bleus. À partir de ce fait-là, pour lequel il a reçu le prix Nobel, il y a eu comme une tradition d'intervention, non-intervention de la part du Canada, parce que c'est ça les casques bleus. Les casques bleus, c'est essentiellement à la fois des militaires et des civils qui vont dans des pays où il y a des conflits et qui ne prennent pas partie prenante pour un côté ou pour l'autre, mais joue une sorte de force de stabilisation neutre dont le but, c'est de sauver autant que possible les civils. Puis là, avec le temps, ça s'est développé. Des missions de paix où on sait...
À certains cas, c'était des forces de maintien de la paix. Là. Quand un cessez-le-feu fragile, là, des deux côtés, essayer de garder ça tranquille.
Puis de plus en plus, c'est de la formation, puis qu'on collabore à ce que les systèmes de judiciaire et le système policier... Bon, donc, la mission le besoin est évident sur la planète et le problème qu'il y a, c'est que le Canada, qui a été donc un joueur symboliquement important, est un joueur qui participe peu à la force des Nations Unies en termes d'effectifs. Et là, à Vancouver, tout le monde s'attendait à ce que Trudeau reprenne en quelque sorte cette mission-là du Canada, qui est importante là, au niveau de l'image du Canada, qui est importante si tu veux avoir un poste au Conseil de sécurité. Mais ça n'a pas été le cas. Et les engagements du Canada demeurent toujours assez modestes. Je pourrais en reparler tantôt. Là, j'essayais de comprendre un petit peu ça. Voilà.
Mario.
Parce que M. Trudeau avait beaucoup promis de ce point de vue-là, dénonçant, puis c'est toute la question de l'ampleur de l'écart entre ce qui était Stephen Harper et ce qui est Justin Trudeau. Dans le discours, si on retournait au discours là, électoraux, etc., c'est comme s'il était sur deux planètes, là, parce que Stephen Harper avait abandonné ce genre de mission-là, entre autres à cause de l'Afghanistan, là, parce que le Canada quand même avait déployé des ressources en Afghanistan, donc ça avait été moins prioritaire, en fait même certains, ça avait été comme abandonné un peu la notion de mission de paix par le Canada, et donc Justin Trudeau dit « moi, là, je reviens à cette école-là », puis finalement, ben ce qu'on se rend compte, au même titre que finalement en matière d'environnement, bon, oui, il a pris certaines mesures, oui, il y a un changement de discours, oui, il y a un grand nombre de changements symboliques, mais les cibles, par exemple, de réduction des gaz à effet de serre, quand tu vas voir le chiffre, là, la cible, ben la cible qu'il y avait sous Stephen Harper, c'est la même sous Justin Trudeau. Ben, on a un peu le même genre de cas ici, c'est que le discours a énormément changé, mais dans les faits, bon, on n'ira pas beaucoup plus loin. Le Canada va faire quelque chose quand même, un peu en matière de formation, fournir de l'équipement. On sait pas exactement où, quand, comment, dans quelles circonstances ça va se mettre en place. Mais les vraies demandes qui étaient faites par la communauté internationale au Mali, au Congo, en République centrafricaine pour une intervention, pour un déploiement d'une force canadienne de quelques centaines, on parlait de 600 à 750 personnes, le soldat et autres, ça a l'air que le Canada ne fera pas ça. Puis une des raisons, ça remet en cause, on a parlé il y a une couple de la semaine passée, tu sais, du fameux le ruban blanc, là, qui était le coquelicot blanc qui était porté par les gens de Québec solidaire, donc les pacifistes. Puis ça remet un peu en question ça, parce que dans ce cas-ci, on nous dit le Canada, on n'a pas même le goût d'envoyer des gens dans ces missions-là parce qu'elles sont dangereuses. Oui. C'est des forces de maintien de la paix, c'est des forces de protection des civils, là, mais dans des zones où les rebelles ou les gens qui menacent les civils sont armés, sont dangereux, peuvent être inquiétants. Puis, c'est juste un rappel de la réalité, c'est que tu peux t'habiller là, dans la cape d'être pacifiste, là. Mais en théorie, un pacifiste devrait vouloir protéger de la population civile, mais quand la menace est réelle, là, je veux dire, t'as pas le choix, là, ça te prend une force armée réelle, déployée, puis qui prend des risques, là, c'est le rôle des militaires, c'est pas facile, c'est dur, ça comporte des risques, puis c'est un dur rappel de cette réalité-là aussi.
Mais être casque bleu, c'est pas simple, parce que, pour en avoir interviewé, là, d'être témoin d'actes, de ne pas avoir le mandat d'intervenir, à moins d'avoir un ordre direct, mais d'être, comme tu dis, être une espèce de zone tampon entre les groupes qui s'affrontent, là. Tu peux, et ça s'est vu là, chez des militaires, développer énormément de frustration en disant « j'aurais voulu intervenir, j'aurais voulu faire quelque chose, mais j'ai pas le mandat, j'ai pas l'autorité pour le faire. »
Général Dallaire, c'était l'exemple.
Ben, c'est un exemple. Il n'y avait pas les ressources, puis les Nations Unies n'avaient pas l'air allumées sur ce qui se passe au Rwanda.
Qui a été pris dans un conflit, un génocide épouvantable avec des forces et l'interdiction d'agir, et ça a été le drame de sa vie. Alors, il y a ça, il y a aussi effectivement que les situations se détériorent, puis il n'y a plus beaucoup de contrôle. Avant, si j'ose dire, la perception que j'en ai, c'est que les guerres étaient comme organisées. T'sais, c'était une armée contre une autre armée. Mais c'est certain que dans des pays comme le Soudan, ce que tu vois, c'est des groupes rebelles, de différentes, des espèces de tribus, en quelque sorte, très anarchiques et qui sont sans foi ni loi, là. Puis même souvent, c'est des groupes de mercenaires payés par des intérêts économiques. Donc, les forces d'intervention, il y avait comme une espèce de gentleman's agreement dans l'idée des casques bleus. C'est-à-dire que tu as des forces qui s'opposent, puis tout d'un coup, tu as une force dont on reconnaît une certaine autorité, à laquelle on reconnaît une certaine autorité qui s'interpose. C'est plus ça. Les engagements du Canada sont très faibles. Tu parlais, effectivement, c'est les mêmes chiffres. Ils parlent de 600 soldats, 150 policiers, deux avions militaires.
Ça, c'est ce qui était espéré, là.
Oui, mais dans les faits, il y a 25 soldats canadiens qui sont actuellement déployés dans ce cadre-là. Alors, il y a une grosse... Puis, quand on voit les déficits du Canada qui augmentent sans cesse, puis on voit aussi une volonté de moderniser l'armement puis l'équipement des militaires, il y a comme une contradiction. T'sais, c'est clair que le Canada manque de détermination. Et le départ de Stéphane Dion, probablement, est une des raisons, parce qu'il représentait quand même une volonté claire. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il y avait, lui, une espèce de détermination qui aurait sans doute entraîné le Canada à prendre des positions plus fermes puis des engagements plus sérieux à l'égard de la paix dans le monde.
Ouais. Ceci dit, faut pas se leurrer, là. Politiquement, le gouvernement Trudeau se cause pas un dommage épouvantable avec ça. Là. Je veux dire, je pense pas qu'il va dropper d'un sondage parce qu'on n'envoie pas les forces voulues en République centrafricaine, puis au Congo, puis au Mali. Il faut pas s'illusionner. C'est pas un thème qui est politiquement explosif dans l'électorat, je vais le dire comme ça, mais c'est quand même une promesse rompue vis-à-vis de la communauté internationale, là, t'sais, pis, qui laisse, à mon avis, qui laisse une bizarre de trace, en tout cas sur ce qui devait être le fameux changement d'image du Canada, parce que c'est beaucoup pour ça, quand on disait après l'élection, les gens en avaient assez de l'air à peur, pis tout ça, pis on voulait que le Canada, sa place à l'international, le regard que le monde posait sur lui. Disons que en l'espace d'un mois, là, le dossier des Paradise Papers et le dossier des forces de paix, oups, c'est comme si tout à coup l'image parfaite du Canada et de son leader prend un exemple
sur la scène internationale. Monsieur Trudeau, alors dans l'opposition, attaquait le gouvernement Harper pour ne pas bouger dans l'affaire de Badawi, qui est détenu en Arabie Saoudite, qui a été fouetté, puis bon. Puis, je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière, Mario, mais on a ressorti un message de M. Trudeau, à l'époque, donc, dans l'opposition, qui disait au gouvernement, arrêtez de parler, c'est le temps d'agir pour permettre la libération de Badawi. Alors, dernière nouvelle, là, je ne peux pas dire que ces efforts ont donné beaucoup de résultats.
En fait, la politique qui a suivi en Arabie Saoudite est identique à celle des conservateurs.
Pareil.
C'est la même. Puis, je ne dis pas que l'un et l'autre n'ont pas raison, là.
Mais c'est la même chose.
Le Canada a des contraintes économiques importantes. La situation au Moyen-Orient est compliquée. Si tu as un semi-allié, même si tu as un allié gênant, des fois, tu fais attention, mais le fait est qu'ils ont appliqué la même politique. Absolument.
Pour ceux qui se préoccupent du Canada, enfin, effectivement, ils devraient peut-être se préoccuper de l'image publique du Canada sur la scène internationale.
On va s'arrêter là-dessus, monsieur le commissaire. Et au retour, on va parler de cette enquête sur des cas d'esclavage et de vente de personnes en Libye. Autoroute 40, Marc.